Cela est dû, à mon avis, à une normalisation de la vie politique au Kosovo depuis la proclamation de l'indépendance, dans la construction des institutions, dans la création de meilleures conditions, si vous voulez, de vie, mais aussi de vie politique notamment. Une des craintes qui était suscitée, peut-être un peu artificiellement, par certains cercles politiques, c'est qu'il y aura une explosion de violence dans les Balkans, il y aura un effet de domino, il y aura l'éclatement, je ne sais pas, etc. Tout cela n'a pas eu du tout lieu.
Puisque la question de l'indépendance aujourd'hui n'est plus là, quelles sont les attentes des Kosovars et est-ce qu'il y a eu, en quelque sorte, une reconfiguration des partis politiques pour répondre aux nouveaux défis comme le chômage, par exemple?
Effectivement, après la proclamation, déjà après la proclamation de l'indépendance, on a senti dans l'opinion publique que les exigences de l'opinion allaient dans les deux sens. D'une part, renforcer les institutions mises en place et d'autre part, effectivement, travailler dans la résolution des questions brûlantes socio-économiques, notamment le chômage. Les institutions kosovares travaillent ensemble avec les institutions européennes pour résoudre aussi ces questions. Il y a des projets d'investissement dans différents domaines. Il y a eu la création d'un budget de l'État de Kosovo la deuxième année qui s'approche de 1,5 milliard euros, ce qui est quand même important pour un État qui est sorti quand même des ravages de la guerre. Ce qui porte, c'est la perspective européenne, c'est la perspective de l'intégration avec d'autres pays des Balkans. Les Kosovars espèrent aussi pouvoir bénéficier d'une libéralisation des visas, parce que c'est absolument nécessaire justement pour le développement.
On s'interroge bien sûr sur le vote des Serbes dimanche. Est-ce qu'ils vont, à votre avis, boycotter le scrutin? Et si oui, quelles peuvent être les conséquences d'un tel boycott?
Depuis des mois, aussi bien les partis politiques kosovars, les associations de la société civile et les représentants de l'Union européenne réitèrent des appels donc à la communauté serbe de participer aux élections. Le problème, malheureusement, c'est que Belgrade nous utilise comme un instrument pour sa politique qui ne concerne pas les intérêts des Serbes du Kosovo. On a eu une pétition d'une centaine de personnalités serbes de Belgrade qui justement s'opposent à des appels du gouvernement serbe à boycotter les élections, et ces intellectuels appellent la communauté serbe au Kosovo à participer, à s'intégrer aux institutions.
Cela dit, il y a encore de l'animosité entre les communautés.
À mon avis, de moins en moins. Le problème, c'est vraiment d'ordre politique sur le terrain. Les gens, aussi bien serbes qu'albanais, sont affrontés à des questions de la vie quotidienne. Ce qui est important, effectivement, c'est de quelle façon ceux qui vont gagner les élections vont prendre en charge de résoudre les problèmes concrets des citoyens du Kosovo.
Alors justement, quel est l'enjeu principal de ces élections locales?
Le plus grand intérêt, c'est qui va gagner, qui va prendre Pristina. Voilà. Jusqu'aux nouvelles élections législatives, cette combinaison de PDK et de LDK, ils vont rester au pouvoir et ça fonctionne. Ils ont le soutien de la communauté internationale, de l'Union européenne. Donc la rivalité principale est justement entre les deux partis qui sont en coalition.
Et qu'est-ce que vous demandez exactement à Belgrade?
Ne pas empêcher l'intégration des Serbes au Kosovo, cesser de travailler avec ces institutions parallèles et de financer, parce que les institutions mises en place le sont par la communauté internationale. Et puis, on espère une position un peu plus claire de la part de l'Union européenne face à Belgrade. Il n'y a pas d'attitude ferme.